Précisément 18h sur Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Y aura-t-il une riposte d'Israël après l'attaque iranienne survenue la nuit dernière? Attaque inédite et massive. Près de 300 drones et missiles ont été tirés sur l'État hébreu, des engins en grande partie interceptés. Benjamin Netanyahou a réuni cet après-midi son cabinet de guerre. Nous sommes en direct de Jérusalem. Les États-Unis, grand allié d'Israël, préviennent. Ils ne participeront pas à une riposte contre l'Iran. Et comme eux, l'ensemble des pays du G7 réunis ce soir condamnent unanimement cette attaque iranienne. Et appel à la désescalade, appel réitéré par les dirigeants arabes face au risque d'embrasement régional. Enfin, nous irons au Nigeria, où il y a 10 ans, 276 lycéennes âgées de 15 à 16 ans étaient enlevées par les hommes de Boko Haram. 87 d'entre elles restent toujours portées disparues. Et pour celles qui ont été libérées, les souffrances restent vives. Toute la journée, les condamnations internationales se sont donc multipliées, tout comme les appels à la retenue des pays européens à la Russie, en passant par la Turquie, l'Irak ou encore l'Arabie Saoudite après cette attaque inédite de l'Iran la nuit dernière, attaque au cours de laquelle 300 engins aériens ont été tirés sur l'État hébreu. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Julie.
La majorité des chefs d'État du monde entier sont donc à l'unisson ce soir, chose rare face au risque d'embrasement.
Effectivement, appel à la désescalade des pays de la région. Tout d'abord, l'Égypte met en garde contre un risque d'expansion régionale du conflit. L'Arabie Saoudite appelle à la plus grande retenue. L'Irak à ne pas étendre la situation. Et la Turquie a stoppé l'escalade. Exception notable, la Syrie de Bachar el-Assad, alliée de l'Iran, qui avance le droit à l'autodéfense de Téhéran en riposte au raid sur son consulat à Damas le 1er avril. Côté occidental, la condamnation est évidemment générale et la réaction des États-Unis, premier allié d'Israël, est la plus scrutée. Joe Biden a réaffirmé la nuit dernière son soutien inébranlable à l'État hébreu, mais pas question de participer à des opérations offensives contre l'Iran. Les États-Unis ne veulent pas d'une escalade, a redit aujourd'hui John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche.
Quand et comment les Israéliens réagiront, c'est à eux de le décider. Nous comprenons et nous respectons cela. Mais le président a été très clair. Nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran. Nous ne voulons pas d'escalade. Nous continuerons à aider Israël à se défendre.
Les États-Unis qui ont convoqué un G7 en visioconférence aujourd'hui afin de coordonner, je cite, une réponse diplomatique unie. On attend le communiqué final, mais d'ores et déjà le président du Conseil européen, Charles Michel, qui participait aux discussions, indique que le G7 souligne que toutes les parties doivent faire preuve de retenue et que le G7 a unanimement condamné l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit également se réunir d'urgence la nuit prochaine. À noter que la Russie appelle elle aussi à la retenue. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront mardi afin de contribuer à la désescalade. Personne ne semble en fait vouloir l'embrasement. Même l'Iran met le pied sur le frein, en tout cas dans ses déclarations. Téhéran parle ce soir d'une opération limitée annoncée aux pays voisins et aux États-Unis 72 heures avant l'attaque.
Merci beaucoup Louise Baudet. Des positions occidentales jugées en tout cas irresponsables par Téhéran, qui a convoqué dès ce matin les ambassadeurs français, britanniques et allemands. Et en Israël, donc, quelle sera la réponse après cette attaque? 300 drones et missiles tirés, on le disait, contre l'État hébreu par l'Iran, mais aussi par ses alliés, notamment le Hezbollah libanais. Des tirs en grande partie interceptés par l'armée israélienne, appuyée par des moyens militaires américains, britanniques, français. Après des semaines de tensions et de menaces suite à l'attaque du consulat iranien en Syrie attribuée à Israël le 1er avril dernier, la punité de l'agresseur s'est réalisée, s'est réjoui le président iranien Ebrahim Raisi, qui prévient « Toute riposte israélienne imprudente à cette attaque donnerait lieu à une réponse militaire beaucoup plus forte. Israël est donc en état d'alerte. » Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réuni cet après-midi son cabinet de guerre.
Oui, réunion toujours en cours et rien de décidé pour le moment. Mais il semble qu'Israël ne veuille pas en rester là. C'est en tout cas le sens de la déclaration d'un des membres les plus modérés du cabinet de guerre, Benny Gantz. L'événement n'est pas terminé, a-t-il dit. Il a évoqué vouloir faire payer l'Iran en temps voulu après avoir mis sur pied une coalition. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, est sur la même ligne, précisant qu'Israël choisirait le moment de la réplique. Pas d'intervention publique pour le moment du premier ministre Benjamin Netanyahu. Louise Baudet vous le disait tout à l'heure, il s'est entretenu la nuit dernière avec le président américain Joe Biden, qui considère l'interception des missiles et des drones iraniens comme une victoire et presse son allié d'en rester là. D'autant plus qu'Israël n'a pas terminé la guerre à Gaza avec 4 brigades du Hamas encore actives à Rafah au sud de l'enclave, plus de 130 otages aux mains de l'organisation islamiste et aucune avancée dans les négociations. Et puis au nord du pays, 60 000 Israéliens ne peuvent toujours pas rentrer chez eux et la région est sous la pression des tirs réguliers du Hezbollah. Israël promet depuis plusieurs semaines qu'il fera reculer la milice chiite liée à Téhéran et permettre le retour des déplacés. Pour le moment, c'est un échec. Dans ce contexte, une réplique à l'attaque iranienne de la nuit dernière ouvrirait un nouveau front qui ne permettrait pas à court terme à l'État hébreu de remplir ses objectifs de guerre.
Merci beaucoup Thibault Lefebvre, envoyé spécial permanent de France Culture à Jérusalem. Et toujours en Israël. L'espace aérien a été rouvert, mais les établissements scolaires vont rester fermés. Les rassemblements de plus de 1000 personnes restent interdits. Après donc une nuit d'angoisse, la vie a repris dans les rues de Rekavia, un quartier résidentiel de Jérusalem où s'est rendu Michel Paul.
Une terrasse de café en plein centre de Jérusalem, la journée est ensoleillée. Nous sommes quelques heures seulement après le tir de 331 drones et missiles iraniens sur Israël. Gila se sent rassurée après une nuit qu'elle n'est pas prête d'oublier.
Cela a fait très peur. Nous sommes tous contents d'être en vie et en bonne santé. Nous sommes fiers de Tzahal et de tous nos alliés qui nous ont aidés. Et nous espérons les jours meilleurs.
Fusil d'assaut à l'épaule, une tasse de café à la main, Ido se pose des questions sur l'avenir.
Oui, c'est un succès ponctuel, mais c'est aussi un échec sur le long terme. Maintenant, je repars pour ma période de réserve à Gaza.
Beaucoup de discussions, finalement. Tout le monde est content, estime une femme avec son bébé qui préfère ne pas parler au micro. Les Iraniens se sont vengés et les Israéliens pensent qu'ils ont réussi à refouler l'attaque. Mais elle ajoute, difficile de construire sa vie dans ce pays avec toutes ces guerres. Quant à Asaf, un jeune étudiant, il fait un lien direct avec la situation politique.
C'est frustrant de penser que tout ça tourne autour d'une personne qui veut à tout prix se maintenir au pouvoir. Cette souffrance, tous ces gens qui meurent et sont blessés, tout cela à cause de ce type qui habite à 100 mètres d'ici.
À 100 mètres de ce café se trouve la résidence privée de Benjamin Netanyahou, le site de manifestation hebdomadaire.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. C'était très exactement il y a 10 ans, dans la nuit du 14 au 15 avril 2014. 276 lycéennes âgées de 15 à 18 ans, pour la plupart chrétiennes, sont enlevées dans leur internat de Chibok par le groupe armé Boko Haram, faisant alors la une de l'actualité dans le monde entier. Des jeunes femmes retombées depuis dans l'oubli avec la banalisation des enlèvements de masse au nord du Nigeria. Parmi elles, Amina Nkeki, qui a survécu à plusieurs années de séquestration. Elle subit aujourd'hui la stigmatisation au Nigeria, où notre correspondant Moïse Gomis l'a rencontrée.
Durant sa captivité, Amina Nkeki a su gérer le stress généré par les violences des membres de Boko Haram. Libre aujourd'hui, son statut d'ex-otage pèse sur elle. Soutenue par les autorités nigérianes dans ses études, Amina va pourtant à l'université à reculons à cause de l'hostilité de certains de ses professeurs.
Ils nous traitent de pauvres et certains se moquent de nous en disant que nous, les ex-lycéennes otages, ne savons rien. Alors, à ce moment-là, je me mets à penser et ça me fait pleurer.
Après avoir fui une enclave de Boko Haram, Amina a été choquée de vivre autant de rejets chez elle à Chibok. Sa fille Patience est née d'un papa membre de Boko Haram. Amina s'est beaucoup battue à coups de poing. Pas une journée sans que sa fille ne soit insultée par des voisins ou à l'école et même dans le cercle familial.
Parce que les gens avaient la sale habitude de l'appeler « Eh oh, fille de Boko Haram » et je pense que ça peut la détruire mentalement. C'est pourquoi j'ai choisi de m'installer ici avec elle.
Désormais loin de Chibok, Amina est en paix. La scolarité de sa fille se passe sans incident.
Le reportage de Moïse Gomis au Nigeria, où 87 lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014 sont toujours portées disparues. Dans le reste de l'actualité en France, ce coup de semonce rare du deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher, juge inacceptable la manière dont Emmanuel Macron veut éviter le débat parlementaire, faute de majorité à l'Assemblée. C'est ce qu'il explique dans les colonnes du JDD. Le président du Sénat accuse Emmanuel Macron de mépriser le débat national. Preuve en est, le choix fait par l'exécutif de contourner le Parlement en ne proposant pas de loi de finances rectificative pour 2024. Et ce alors que le contrôle du budget est l'une des prérogatives du pouvoir législatif. Accusé d'harcèlement sexuel et moral par l'infectiologue Karine Lacombe, l'urgentiste Patrick Peloux prend la parole et conteste avec force, dit-il, ces rumeurs. C'est de la diffamation, écrit-il sur Instagram ce soir. La publication de l'enquête de Paris Match mettant en cause le médiatique urgentiste génère depuis plusieurs jours une vague de témoignages de soignantes victimes de violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. La météo avec le retour de la pluie demain sur la plupart des régions. Des averses orageuses sont attendues le matin sur le sud-ouest, et le centre et le nord-est du pays. Une perturbation qui se décalera au nord-ouest durant l'après-midi. Comptez 6 à 15 degrés au réveil, 12 à 22 l'après-midi. Midi en moyenne. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Caroline Benetou.